Psychologie des foules et analyse du moi de Sigmund Freud, suite du corrigé. Nous allons à présent passer au troisième chapitre. Donc troisième chapitre, autre conception de la vie psychique collective. Le titre là ne dit pas grand chose. Le passage que j'ai sélectionné est intéressant parce qu'il permet de répondre à la question qui est la question G. Quels sont les effets de la foule sur les émotions de l'individu? Donc là, on passe vraiment à l'analyse de ce qui se passe dans le psychisme, dans le moi individuel. On revient à l'individu. Et on voit ce qui s'y passe. Et ce qui est particulièrement marquant dans les sentiments qu'éprouve un individu à l'intérieur d'une foule, c'est l'intensification. Les sentiments augmentent dans leur intensité, ils changent. L'individu n'éprouve pas les mêmes sentiments qu'il éprouverait hors de la foule, mais ils sont aussi beaucoup, beaucoup plus exaltés. Vous avez cette idée à la ligne 4, 3-4. Il n'existe guère d'autres conditions où les sentiments humains atteignent une intensité égale à celle que l'on observe chez les hommes réunis dans une foule. Et ce phénomène d'intensification est lié, semble-t-il, à ce que vous avez à la ligne 7, une perte du sentiment de leur délimitation individuelle. C'est très important cette idée, il y a une désindividuation, les limites en fait qui font ma personnalité, mon individu, sautent d'une certaine manière, et je me transcende, il y a une transe, donc je me transcende et la foule me transcende et en fait c'est comme si je grandissais, mon âme grandissait pour adopter les contours de la foule, pour être aussi grande que la foule. Plus la foule sera nombreuse, plus les sentiments seront forts en termes d'intensité. Je suis comme fondue dans une grande âme collective qui est l'âme de la foule à laquelle j'appartiens. Donc on a une première conséquence de la désindividuation, l'intensification de l'émotion, mais il y a une deuxième conséquence, c'est que je n'ai plus de limites. Quand je suis tout seul, je sais que je suis limitée dans mes actions, dans mon pouvoir. Je dois me conformer aux principes de réalité, je dois suivre des règles qui me mettent des limites. Donc ça c'est ce qui se passe quand je suis en situation classique, en tout cas pas dans la foule. Quand je suis dans la foule, je n'ai plus de limites. Si je n'ai plus de limites, je peux tout faire. Je deviens une sorte de despote à qui tout est permis. Et donc ça, c'est l'idée que vous avez au deuxième paragraphe. Il y a un sentiment d'une puissance illimitée, dit le texte. Donc, mes sentiments sont extrêmement forts et puissants et je n'ai aucune limite ni dans l'expression de ces sentiments, ni finalement dans les actions que je peux faire en répondant à ces pulsions et à ces nouveaux sentiments. Nous allons à présent passer à la quatrième partie où il sera question de libido et où nous avons deux questions à trouver. Alors, la libido, en général, aujourd'hui, on considère que la libido, c'est le désir sexuel. On va voir ici, justement, que la définition que donne Freud de la libido est un petit peu plus large que ça. Et libido, en latin, ça veut dire « je désire », tout simplement. Donc cette réduction à la pulsion sexuelle est un point d'interrogation. Ainsi, la première question à laquelle nous allons répondre, c'est la question B. La libido se réduit-elle à la pulsion sexuelle? Et la réponse est non. Mais si je réponds non, eh bien c'est pas très très précis, hein. Donc on va préciser un peu et on va lire, alors c'est vraiment un passage très très important, je vais le lire en entier, la définition de la libido, c'est dans ce texte Psychologie des foules et analyse du moi que vous l'avez, la meilleure des définitions de la libido qu'on trouve dans l'œuvre de Freud. Donc je lis à partir, j'ai vraiment du mal, donc à partir de la ligne 3, libido est un terme emprunté à la théorie de l'affectivité. Nous désignons ainsi l'énergie, considérée comme une grandeur quantitative mais pas non encore mesurable, des tendances se rattachant à ce que nous résumons dans le mot amour. Le noyau de ce que nous appelons amour est formé naturellement par ce qui est communément connu comme amour et qui est chanté par les poètes, c'est-à-dire par l'amour sexuel dont le terme est constitué par l'union sexuelle. Mais nous n'en séparons pas toutes les autres variétés d'amour, telles que l'amour de soi-même, l'amour qu'on éprouve pour les parents et les enfants, l'amitié, l'amour des hommes en général, pas plus que nous n'en séparons l'attachement à des objets concrets et à des idées abstraites. Donc, la première chose qu'on peut noter, c'est finalement l'identification entre libido et amour et toutes les formes d'amour possibles. Évidemment, premièrement, l'amour sexuel, l'éros en grec, mais aussi toutes les formes d'amour. Alors j'ai utilisé éros en grec parce que ça a donné érotisme, donc ça permet de définir ce type d'amour comme amour érotique, mais les Grecs avaient d'autres termes pour parler de l'amour, notamment la philia. Et donc, vous avez cette idée-là dans l'amitié, l'amour des hommes en général, ça relève de la philia, donc de l'amitié, qui est un amour justement dénué d'aspect sexuel. Et vous avez aussi l'agapé, qui est un amour, alors là, qui correspond, oui, aux hommes en général, ou l'amour qui nous fait agir de manière charitable, de manière bienveillante. Voilà, donc ces différentes formes d'amour, on les retrouve là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'amour, ce n'est pas simplement l'amour pour des personnes, pour des êtres humains, mais c'est aussi toute forme d'attachement à des objets matériels, éventuellement, ou à des idées abstraites. Donc, toutes les formes d'attachement plus ou moins passionnel à des personnes comme à des objets ou des idées, eh bien, tout ça est englobé dans ce terme libido. Et cette libido, elle est absolument, c'est un concept absolument central chez Freud parce que c'est notre énergie, en fait. C'est ce qui fait qu'on agit, c'est ce qui fait qu'on vit, la libido, c'est ce qui explique tout en fait, c'est ce qui explique toutes nos actions. Donc toute notre vie et nos actions vont pouvoir être expliquées par des désirs, des amours, des attachements que nous éprouvons envers des gens, mais aussi envers des croyances et éventuellement donc envers des objets. Bref, voilà, tous ces attachements, c'est vraiment ce qui fait le moteur de notre vie. Alors, pourquoi est-ce que Freud nous parle ici de libido? On l'a déjà vu, en fait, ça a été annoncé un petit peu avant, on avait un problème, on voyait très bien pourquoi les sentiments étaient contagieux dans une foule, mais on ne comprenait pas bien pourquoi est-ce que les individus devenaient suggestibles, c'est-à-dire influençables. Et donc, il fallait l'expliquer. Et c'est justement la libido qui va l'expliquer, parce que, eh bien, comme on l'a vu, la libido, c'est vraiment le moteur des actions et de la vie psychique pour Freud. Donc, pour expliquer comment un événement psychique aussi intense peut arriver, c'est-à-dire la perte de soi dans la foule, il ne peut y avoir finalement que la libido qui explique cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ça va nous permettre, donc on va passer au paragraphe suivant et à la question suivante qui était la question I, quelle est la fonction de la libido dans la foule? Donc, quelle est cette fonction? En fait, il y a une double fonction. La première fonction, c'est que c'est un peu comme dans tout amour, la libido, elle produit la cohésion. Vous avez ça donc à peu près à la ligne 5, 6, 6. En premier lieu, pour que la foule garde sa consistance, il faut bien qu'elle soit maintenue par une force quelconque et qu'elle peut-être cette force, si ce n'est Eros qui assure l'unité et la cohésion. penser en effet à l'amour sexuel, que produit le désir? Il produit la volonté de fusionner, la volonté d'attachement, la volonté d'être l'un avec l'autre. Donc ça rapproche, ça colle, ça fusionne les êtres les uns avec les autres, la libido. Donc ça, cette fonction-là, et dans une foule, eh bien, surtout une foule compacte, les gens sont serrés les uns contre les autres et ils ont envie d'être les uns avec les autres. Mais en plus, vous connaissez le dicton « l'amour rend aveugle », en plus, quand on est dans cette situation, qui est cette situation de fusion, on va avoir une perte d'esprit critique. On va avoir justement cette baisse de la défense, de la censure, de la critique, de la réflexion, et on va moins bien réfléchir et on va être plus porté à croire, à adhérer aux idées de celui qu'on aime, et là en l'occurrence de la foule. Voilà donc pour ces effets de la libido sur la foule. Et on va passer là pour l'instant, tout cela était quand même très abstrait. Donc pour clarifier un petit peu son propos, Freud va prendre des exemples. Et il va prendre l'exemple de deux foules qui sont des foules conventionnelles, hein, qui sont c'est-à-dire qui sont organisé et réglé par des conventions. Et ça, c'est l'Église et l'armée. Et on passe donc au chapitre 5. Il nous reste deux questions. Donc, ce sont les deux questions. La première, pardon, de ces deux questions, c'est la question A. Quel est le point commun majeur entre l'Église et l'armée? Ce sont les deux exemples et il y a des points communs entre ces deux types de foules. Il ne les a pas choisis au hasard, Freud. Elles sont plus faciles à observer que les autres. Pourquoi? Eh bien, parce que ça, c'est au début du premier paragraphe de ce chapitre. Elles sont conventionnelles, elles sont très fortement organisées, protégées de la sorte contre toute possibilité de désagrégation. Ça, c'est à la fin de ce premier paragraphe, pardon. Donc, ce sont des foules qui sont plus stables dans le temps que les manifestations ou que voilà les supporters de foot qui descendent dans la rue quand il y a la France est championne du monde. Bon, donc c'est plus facile du coup à observer. Ça, c'est le premier point commun. Donc, elles sont très organisées et leur but, c'est de durer. Et le deuxième point commun, ça, c'est au début du paragraphe, c'est que en fait, on n'a pas vraiment le choix d'y entrer. Aujourd'hui, l'armée est plutôt une armée de métier, donc normalement, les soldats français sont des soldats qui ont choisi de le faire, mais pendant longtemps, il y avait un service militaire et on pouvait être appelé à faire la guerre. Sans le vouloir. Donc, c'est quelque chose de pas évident. Pour la religion, c'est la même chose. Une religion, on ne la choisit pas au départ quand il s'agit de la religion de sa famille. On est dedans. On n'a pas le choix. On nous a pas demandé d'adopter tel ou tel rite ou telles habitudes qui sont liées à la religion. Donc ça, ce sont nos deux premiers points communs dans le premier paragraphe du texte. Et ensuite, donc dans le paragraphe suivant, vous avez d'autres points communs. On regarde à la ligne 2, fin de la ligne 2, donc dans l'armée et dans l'église, il règne la même illusion, celle de la présence visible ou invisible d'un chef, le Christ dans l'église catholique, le commandant en chef dans l'armée, qui aime d'un amour égal tous les membres de la collectivité. Donc, vous avez dans ces deux cas une Une illusion. Une illusion, c'est une croyance. C'est une croyance qui est fortement aimantée par le désir, par l'amour, en fait. On se fait des illusions quand on rêve d'obtenir quelque chose. Bon, bref. Donc, l'illusion, c'est une croyance liée à notre désir. Et là, ici, cette croyance, c'est la croyance en l'existence de un chef qui unit en fait toute la communauté, un peu comme un père. Là, vous avez une figure, des figures paternelles, hein, le Christ qui aime et qui aime tous les fidèles. Donc la libido, là, elle est au cœur, encore une fois, de la cohésion du groupe. Il faut qu'il y ait cet amour, en fait, de tous envers le chef, envers le Christ pour la religion catholique, envers le commandant, le général, le héros. On peut penser au général de Gaulle, par exemple. Donc ces figures comme ça, qui sont aimées par tous ceux qui sont dans la foule de ce qu'on appelle les fidèles pour la religion. Et ça crée aussi un deuxième type d'amour, c'est l'amour entre tous ceux qui font partie de la même communauté et qui vont souvent s'appeler frères. Frères comme s'ils faisaient partie de la même famille et avaient les mêmes parents et notamment le même père. On voit donc la libido là clairement au cœur de la cohésion de la communauté. On va passer à la dernière question. Et à la fin de ce texte, nous avons vu comment se formait une foule, diverses foules, quels étaient les effets de la foule sur les individus, comment se créait une forme d'âme collective qui venait se substituer à l'âme individuelle et qui avait des effets sur l'individu qui d'un coup change d'idée, de sentiment, de croyance, perd ses habitudes de pensée et d'action et se trouve dans une situation de toute puissance où ses désirs, où ses pulsions sont intensifiés. Nous avons vu les exemples de l'armée et de l'Église qui permettent de comprendre comment se maintient cette communauté. Nous avons vu que la libido était au cœur de cette cohésion de la foule et permettait de comprendre comment, en effet, pouvait se substituer certaines croyances aux habitudes de pensée de l'individu, annihilant aussi son esprit critique et sa capacité de réflexion. Maintenant, vous avez dans ce dernier paragraphe la désagrégation de la foule. Comment la foule disparaît et laisse réapparaître les individus qui la composaient et qui s'étaient oubliés d'une certaine manière dedans. Et cette désagrégation de la foule, elle se traduit par un sentiment. Et ce sentiment, c'est le sentiment de panique. Donc la question qui correspond à notre dernier paragraphe, c'est la question F. Que se passe-t-il dans la foule en cas de panique? Donc si on regarde là, à partir de la ligne 4, je cite, une panique se produit lorsque la foule commence à se désagréger. Donc il y a une concomitance en fait entre ce sentiment, la panique, qui pas, alors c'est je panique, mais la panique c'est aussi l'ensemble de ce mouvement de foule particulier qui est un moment où en fait au lieu d'être soudés les uns aux autres, finalement les individus qui composent la foule vont se séparer et généralement d'une manière qui n'est pas très réfléchi ou rationnel. Donc, au moment où la foule se désagrège, il y a de la panique. La panique étant une forme de peur. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans la foule, les individus perdaient leur peur, perdaient le sens du danger et se sentaient tout puissants. Donc, finalement, c'est assez normal que le contraire de ce sentiment de toute puissance et de capacité d'affronter tous les dangers qu'est la panique se manifeste au moment où finalement on n'est plus tenu par la cohésion de la foule où on commence à ne plus y croire, où on commence à avoir peur. Et la peur ici, c'est typiquement le sentiment de celui qui se retrouve seul face à un danger, qui ne se sent plus soutenu par ceux qui l'entourent. Je continue à citer cette partie du texte. Elle est caractérisée par ces faits que les ordres des chefs ne sont plus obéis et que chacun ne se préoccupe que de lui-même, sans nul souci des autres. Les liens réciproques se trouvent rompus et une peur immense, dont personne ne saurait expliquer les raisons, s'empare de tous. Donc on voit bien que tout ce qui s'était créé lors de l'apparition, de la création de la foule, en fait, disparaît. Il n'y a plus de chef qui, comme ça, aimante le désir et l'amour des individus et qui peut donner tous les ordres qu'il veut à une foule aimante et influençable. Ça, c'est fini. Donc les ordres du chef ne sont plus obéis. Et deuxième chose, les individus ne se sentent plus liés les uns aux autres. Ils retrouvent leur individualité et se préoccupent, commencent à se préoccuper d'eux-mêmes. Donc retrouvent le sens de leur intérêt individuel qui va surpasser l'intérêt collectif qui pouvait exister auparavant. Et donc fin de cette citation. Eh bien, la panique, c'est une espèce de peur en grand, en fait. C'est une peur qui est une peur aussi intense que pouvaient être les sentiments exaltés dans la foule, en fait. On a toujours ce caractère d'intensité de l'émotion. Donc, la peur est hyper intense, elle est irréfléchie et elle fait faire des choses irrationnelles. Pensez au mouvement de foule où certaines personnes se retrouvent piétinées. Il y a déjà eu des morts comme ça dans des mouvements de foule paniqués et où on ne réfléchit plus, on court et si on marche et piétine quelqu'un, c'est pas très grave. Donc voilà, on agit de manière irrationnelle et de manière complètement égoïste en fait. Et donc, c'est une peur en grand par son intensité et aussi parce que toute la masse des individus éprouve cette même peur. Bien, nous allons nous arrêter là donc sur ce texte de Freud en espérant que cela vous aura aidé pour la lecture et aura clarifié un certain nombre d'éléments un petit peu obscurs dans le texte.